Bonjour Patrick, une Assobiscay.
Bonjour Anne-Rose.
Patrick, vous êtes cuisinier de Monseigneur Brouvet au chalet épiscopal dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Vous avez été précédemment cuisinier de Monseigneur Perrier, puis encore avant de Monseigneur Sahuquet. Ça fait 30 ans que vous êtes au service des évêques successifs du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. 30 années passées ici. Vous vous apprêtez à prendre votre retraite dans quelques semaines, dans quelques jours. Alors, on va en profiter pour faire un petit portrait de vous, savoir tout ce que vous avez à nous raconter sur cette expérience un petit peu insolite. La première question qui me vient à l'esprit, c'est comment vous êtes arrivé là? Comment on devient cuisinier d'évêque?
Justement, en plus, c'est la question que je me suis posée, moi, très longtemps. Effectivement, parce que je travaillais à l'accueil Notre-Dame. Et à l'époque, il y avait M. Altuzara, qui était directeur du personnel. Et effectivement, un jour, alors que je ne le connaissais absolument pas, à l'accueil Notre-Dame, il y avait une distance entre l'accueil et les services administratifs qui se situaient ici. Et du coup, il y avait cette distance qui faisait qu'on connaissait personne. Et M. Altuzara, un jour, m'a appelé dans son bureau. Et puis il m'a décrit, donc j'étais très étonné de la façon dont il m'a décrit. J'ai toujours recherché pour quelle raison et qui c'est qui m'avait indiqué à moi. Je n'ai jamais trouvé pour quelle raison je me suis retrouvé au chalet épiscopal. Et c'est une question, je le rencontre très souvent, mais c'est Altuzara. Et je lui ai posé la question, je lui ai demandé, mais monsieur Altuzara, pour quelle raison vous m'avez choisi à moi pour venir au chalet épiscopal, et il m'a répondu, écoutez, je fais mon métier et je sais le faire. Voilà ce qu'il m'a répondu. Donc je répondrai la même chose à vous, c'est que je ne sais pas réellement. En tous les cas, ça a été un immense honneur et ça a été un plaisir dès le premier jour. Donc pour moi, même si je n'en connais pas les raisons, en tous les cas, ça fait 30 années de bonheur au sein du chalet.
C'est que certainement, il avait perçu en vous les qualités requises pour ce travail, parce qu'il faut être cuisinier, mais pas seulement, hein. Il faut aussi être un homme de confiance. Être cuisinier d'un évêque, c'est rentrer dans sa vie privée, dans son intimité.
Exactement. Effectivement, c'est ce qui m'avait surpris aussi dans la façon dont il m'avait décrit. Il m'avait parfaitement défini. Donc oui, c'est tout à fait ça en fait. Et je pense que même les critères numéro un, c'était le respect. Je pense que cette discrétion que je semble porter faisait qu'on fait que finalement, je me suis retrouvé ici. Et puis après, peut-être un petit peu comme je faisais la cuisine aux sœurs l'hiver, peut-être qu'effectivement elle m'avait décrit pour la cuisine également, mais en tous les cas je pense qu'effectivement l'aspect respectueux a beaucoup joué au tout début. Voilà, donc je me suis retrouvé avec un plaisir comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Alors, à cette époque-là, l'organisation du diocèse n'est pas tout à fait comme celle aujourd'hui. Monseigneur Sahuquet se partageait une présence entre ici, le chalet épiscopal à Lourdes, hein, tout près du sanctuaire, et puis une présence à Tarbes, à côté de la cathédrale. Ça a continué avec Monseigneur Perrier. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Donc, le poste a évolué aussi. Vous êtes passé d'un poste sur deux lieux à un poste ici. Comment ça a évolué?
Tout à fait. Alors en fait, moi j'ai pas connu, mais Monseigneur Donze, le précédent, donc le prédécesseur de Monseigneur Sahuquet, alors lui passait 6 mois à Lourdes, 6 mois à Tarbes. Donc c'était sa façon de procéder, mais moi avant, je suis arrivé avec Monseigneur Sahuquet. Lui il a modifié et il a fait la moitié de la semaine, enfin 3/4 semaine à Lourdes et 1/4 de semaine à Tarbes. Donc effectivement, là moi je me suis j'ai fait ça pendant 5 années.
Donc il faut courir d'un lieu à un autre.
Non, du coup, moi, je restais à Lourdes. Je restais à Lourdes, c'est Monseigneur Sahuquet qui bougeait. Après, du coup, Monseigneur Perrier est arrivé, et lui, il a modifié complètement, il a fait Lourdes et Tarbes. Et nous, on devait aller aussi à Tarbes et à Lourdes. Donc, par contre, là, il m'a fallu quelqu'un d'autre. Donc, c'est Yves Rodet, là, qui était maintenant à la Maison des Chapelains, qui est venu avec moi me seconder. Et donc, à tous les deux, on a suivi Monseigneur Perrier faire les trajets entre Tarbes et Lourdes. Donc c'était... c'était assez costaud, mais voilà, on s'est adapté. Et puis voilà. Après est arrivé Monseigneur Brouvet, qui lui a fait de nouveau une fonction différente. Il s'est installé à Lourdes, au chalet épiscopal, et il reçoit beaucoup plus à Lourdes et de temps en temps à Tarbes. Mais on n'a plus ces trajets réguliers qu'on faisait avec Monseigneur Perrier.
À quoi ça ressemble le quotidien d'un cuisinier d'évêque ? Parce que est-ce que c'est l'inconnu chaque jour ? Est-ce que ce sont des... on imagine, nous, toujours des grands repas avec beaucoup d'invités, un évêque qui reçoit énormément. Comment ça se passe au quotidien ?
Ah oui, tout dépend de la personnalité de... Alors, je vous cache pas que quand je suis arrivé avec Monseigneur Sahuquet, c'était quand même... Moi, je suis arrivé ici, j'étais un terrain connu. D'entrée, je me suis retrouvé à devoir faire à manger. Et je me rappelle, c'était un ministre Gilibert qui venait pour déterminer la construction de l'accueil Notre-Dame. Donc, il y avait un repas ici au chalet où il fallait bien le recevoir. Donc, d'entrée, je me suis retrouvé dans des situations un petit peu inédites pour moi. Et il fallait de suite rentrer dans le bain. Mais j'ai eu la chance avec Monseigneur Sahuquet. Il a toujours été très attentif à me rassurer. Il voyait bien que c'était quand même très, très, très inconnu pour moi. Donc il était toujours très attentif. Et Geneviève Ponrouet, c'était sa secrétaire à l'époque. Et tous les deux, ils ont toujours été très, très prévenants. Donc j'étais très, très choyé dès le début. Et ça fait que du coup, ça s'est très bien passé au début. Et puis après, le rythme a été crescendo, parce que plus on prenait confiance, donc plus finalement on arrive à faire du meilleur travail. Et donc plus on a confiance, et donc plus on crée de la confiance. Et il se trouve que c'est monté crescendo comme ça. Et après, avec Monseigneur Perrier, donc lui, c'était la façon de recevoir les personnalités, les invités, c'était de les inviter à manger. Donc c'était beaucoup plus intense, beaucoup plus et puis n'hésitez pas, ça pouvait être de haute personnalité comme des personnalités autres aussi, mais il fallait s'adapter en permanence et oui, c'était c'était en même temps, c'est une remise en question permanente, c'est toujours très intéressant parce que c'est aussi une grosse concentration qu'il faut, c'est une remise en question. Et bon, voilà.
Avec un nombre de personnes à table qui change régulièrement, voire tous les jours ?
Tout à fait. Alors effectivement, ça peut aller de 1 à 2 personnes, comme ça peut aller jusqu'à 30, 35 personnes. Il peut y arriver, voilà. Donc ça peut être... Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y en avait à Tarbes, il y en a fait à Lourdes, donc il pouvait y en avoir 10 le midi à Tarbes et 10 le soir à Lourdes. Ou alors, pas du tout, des fois, il n'y a pas des repas, donc on s'adapte, on prépare les prochains. Enfin, voilà. C'est une adaptation permanente, mais c'est ce qui fait le charme du travail du chalet, de la cuisine au chalet.
Alors, comment vous déterminez ce qu'il faut faire à manger ? Parce que un évêque reçoit des personnalités, vous l'avez dit, qu'elles soient religieuses, politiques, des familles, enfin un tas de personnes différentes qui ont des fonctions différentes et qui viennent rencontrer l'évêque pour des raisons différentes. Comment vous percevez ce qu'il faut faire ? Sachant que le repas est quand même un peu aussi la clé du bon déroulement de la rencontre.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant justement au chalet, c'est ça, c'est cette facilité qu'on a de créer, en fait c'est jamais, comme je vous disais tout à l'heure, on parlait de 30-35 personnes, mais c'est quand même assez rare. Donc il y a toujours un nombre de 10-15, les moyennes, ça tourne, c'est 10-15 personnes. Ça fait qu'on a cette facilité ici de pouvoir créer, de pouvoir... Moi, j'étais... surtout quand c'était très intense comme ça, on est, c'est vrai, plongé sans arrêt dans la cuisine. Moi, je m'abonnais à tout, à toutes les parties culinaires à la télé, dans les magazines, autres. Tout le temps, j'étais tout le temps en train de rechercher sans arrêt, les associations de goût. Et effectivement, comme on m'a souvent dit, je fais jamais des choses hyper simples parce que je suis tout le temps en train de faire de la recherche, associations de goût, tout ça. Donc c'est ce qui est intéressant ici, on a une grande liberté en plus, où on peut travailler avec les produits locaux, on peut travailler avec les produits, voilà. Donc c'est s'adapter sans arrêt, et c'est ce qui fait, c'est, C'est pour un cuisinier, en fait, ici, c'est le top parce que le nombre de personnes n'est pas nombreux. Il n'y a pas beaucoup de personnes à faire manger. Donc, en fait, quand vous n'avez que 5-10 personnes, on peut faire quelque chose de très sympa, même avec des choses simples, tout en faisant un repas simple. Après, Monseigneur Perrier, ce qu'il me disait souvent, c'était Monseigneur Perrier ou même Monseigneur Bouvet maintenant, c'est par contre, quand il voulait des choses, un repas très simple, là, il me le faisait clairement savoir, et également Monseigneur Bouvet. Et par contre, quand il faut que ce soit un peu plus élaboré, parce que pour telle ou telle raison, alors à ce moment-là, on s'adapte à ça en permanence.
Alors, nous sommes actuellement dans la cuisine, qui est encore votre cuisine. C'est une cuisine super équipée. Vraiment, vous m'avez dit, c'est génial de travailler dans un environnement comme ça. Parlez-nous un petit peu, expliquez-nous un petit peu tout ce qu'elle a, la manière dont elle a évolué en 30 ans, cette cuisine. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux de travailler ici?
Ben déjà, c'est l'espace. Il y a beaucoup d'espace, ça je l'avais, enfin au tout début quand je suis arrivé, c'était un peu désuet, il y avait une table en plein milieu qui était en céramique, là, ces vieilles tables avaient des buffets en bois, tout ça, donc on a tout enlevé, c'était à l'époque avec Claude Lagus qui était responsable du matériel, là. Donc on a tout modifié, j'avais récupéré des tables chauffantes et puis on a mis des tables en inox, tout est en inox maintenant, dans les normes d'hygiène. Mais c'est ce qui est très agréable, c'est l'espace et la fonctionnalité. Donc elle est très fonctionnelle parce qu'on a tout autour, on a pratiquement en restant sur place, juste en se retournant, vous avez accès au fourneau et en se retournant, vous avez la table de travail. Donc il y a une super fonctionnalité, vous n'avez pas besoin de courir partout. Et l'espace donc, qui permet, avec ces grandes tables, qui permet de travailler très facilement.
Quel est votre outil préféré? Je crois que la machine à sorbet, c'est un peu votre coup de cœur, non?
Oui, effectivement, nous avait offert cette sorbetière. Je crois que c'est mon coup de cœur et puis celle des invités, je pense. Parce que effectivement, ça me permet de faire des sorbets à base des fruits frais de saison. Donc je crois que tout le monde s'en régale ici, effectivement.
Voilà. Est-ce que vous avez, alors sans trahir évidemment le secret professionnel, hein, parce que c'est quelque chose d'important, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter, à nous confier? Vous avez dû quand même vivre des choses assez atypiques. Enfin, vous avez vu pas mal de monde passer ici. Servir des gens à table, c'est aussi s'introduire dans une conversation privée. Il faut trouver la bonne distance, le bon geste au bon moment. Enfin, il a dû quand même se passer un tas de choses assez atypiques en 30 ans.
Oui, tout à fait. Il y a eu des repas qui étaient d'une extrême importance, qui se sont déroulés et donc qui nous ont mis pas mal de pression. Comme anecdote, je ne sais pas celle que je peux raconter. Bon, on va dire celle qui peut se raconter, il y a eu des accueils des Russes par exemple, des chanteurs russes qui avaient été quand même assez atypiques parce que on les avait reçus avec Monseigneur Perrier et bon, il se trouve que ce groupe là avec un peu de penchant pour l'alcool, disons, on va dire, et ça fait que du coup ça avait été un peu une semaine assez cocasse, on va dire, et voilà, je peux juste raconter ça. Après il y a eu des repas beaucoup plus sérieux, mais dont le contenu était, par contre, avec beaucoup de tension, beaucoup de, voilà, c'est vrai qu'il y a eu des choses.
Il faut être un peu psychologue pour être cuisinier d'un évêque.
Oui, je crois qu'il faut avoir beaucoup de respect, à la fois beaucoup de distance par rapport à je crois que surtout c'est le respect qui est très important, parce que il faut respecter la fonction, il faut respecter les personnes qu'on reçoit, oui, ça fait partie de l'accueil qu'on doit avoir au chalet, oui.
Patrick Unasobiskay, vous allez partir à la retraite dans quelques semaines. Qu'est-ce que vous allez faire? À quoi vous allez occuper votre temps? Mon petit doigt m'indique que vous alliez être très occupé, mais qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer à cuisiner? Vous avez ça en vous quand même.
Oui, alors il va y avoir un petit peu une partie cuisine, oui. Ben là, on m'a, déjà, la semaine dernière, on m'a proposé aussi quelques, quelques événements là, à faire de la cuisine, justement un petit peu des événements ponctuels. Ce sera des soirées à thème. On m'a demandé de si ça m'intéressait. Donc effectivement, ça peut être, ça m'intéresse fortement. Ça c'est pour la cuisine. Ensuite, il y a une partie. J'ai mon fils qui a une entreprise. Je gère sa partie administrative. Donc j'ai cette partie-là que je fais déjà et qui va être un peu plus intense. Qu'est-ce qu'il va y avoir? On est en train de monter un projet, ça s'appelle le village gourmand, gourme, apostrophe H-A-N-D. Donc c'est un projet où je peux pas tout révéler, mais en fait on va développer la gastronomie dans le monde du handicap, pour mettre en valeur les personnes en situation de handicap et leur valorisation. Donc ça c'est en plein projet, ça marche très très fort,
Il faudra venir nous en dire plus quand vous pourrez.
Oui, tout à fait. On est en train d'y travailler dessus, mais c'est en bonne voie.
Bon, bref, vous allez avoir une retraite très très occupée.
Oui, tout à fait, oui. Et puis je vais, comme j'étais coach aussi de foot, je vais reprendre du service, ce que j'avais arrêté depuis quelques années là. Donc je vais reprendre aussi avec.
L'agenda est déjà plein.
L'agenda est déjà plein.
Bon, on peut pas vous quitter, Patrick, sans vous demander une petite recette. Alors, puisque notre interview va être diffusée au début de l'été, au cours de l'été, il y a la grande fête du 15 août. Alors, petite question, qu'est-ce que vous feriez pour la fête du 15 août ?
Alors, on peut partir sur un magret aux pêches, là, sans préparation comme ça. Alors, moi, ce que je fais quand j'arrive le matin, très souvent, je pars du magret. Je prends les pêches et puis après, c'est à l'improvisation. Et après, je n'ai jamais le mis.
Vous êtes en train de nous dire que vous improvisez la cuisine pour notre évêque.
Ah oui, très souvent. Oui. On part d'une base et puis après on avance. Très souvent, c'est ce que je disais. On me disait souvent d'écrire la recette que je vais faire. Mais elle n'est jamais à midi ce que j'avais pensé le matin. Donc en fait, au fil du temps, et puis en fonction du temps qui me reste, je rajoute. Alors on peut partir du magret aux pêches, mais après il va se rajouter, je ne sais pas moi, un millefeuille de haricots.
Un millefeuille de haricots ? Mais comment vous faites ça ?
Je vous dis ça, mais après, non, il faut préparer les millefeuilles, il faut préparer. Mais je vous dis, c'est une improvisation. On va faire une sauce hollandaise avec le haricot. Au fil de la matinée qui va se passer, et puis il peut se rajouter des petits morceaux de foie gras qui va faire l'intervalle entre le haricot. Mais voilà, je vous dis ça parce que j'ai rien préparé et que ça me vient au fur et à mesure, mais bon, ça c'est à l'improvisation. Moi je trouve que j'aime bien improviser tout ce qu'il faut au dernier moment.
Faut pas vous planter quand même. Eh ben, vous vous plantez jamais.
Pour le moment, enfin voilà. Mais après, tout dépend le repas, comment il est. Il peut être très simple aussi, mais voilà.
Un petit dessert quand même. Le dessert idéal pour le 15 août.
Ah ben, on a parlé tout à l'heure de sorbet. Là, on a parlé tout à l'heure de sorbet, mais là, c'est effectivement, il peut y avoir un sorbet d'abricot. Là, je sais pas, j'ai rien préparé.
Non, parce que là, effectivement, je vous piège. Hein, au moins, les auditeurs voient que c'est improvisé aussi.
Ça peut faire un petit clafoutis, mais après un clafoutis qu'on va travailler différemment aussi. On peut le découper, le mettre dans une crème mascarpone avec un coulis de framboise. Un peu. Voilà, tout est question de goût, tout est question de et surtout de fruits de saison. Tout dépendra à quel moment vous me le demandez.
Bon, ben voilà, au mois d'août, les pêches et les sorbets, c'est idéal. Pour finir, Patrick, un dernier mot. Si vous deviez utiliser un mot pour qualifier ces 30 années passées dans les cuisines, la cuisine des évêques successifs du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, quel est le mot pour qualifier ces années ?
Extraordinaire. Moi, je dirais que c'est extraordinaire. C'est celui qui me vient maintenant. On ne s'en rend pas compte pendant toutes ces années. On ne s'en rend pas compte pendant 30 ans. Et c'est quand il y a le gong final qu'on se dit, mais c'était quand même extraordinaire. Et voilà. Donc, c'est aussi un hommage que je dois rendre à tous les évêques qui m'ont guidé, hein, et puis également à Notre-Dame. Moi, je dis souvent que il faut reconnaître que grâce à Notre-Dame, grâce à Lourdes, ça m'a permis de vivre, ça m'a permis de faire vivre ma famille. Donc j'en serai toujours reconnaissant. Et ça a été une fierté, en tous les cas, une très très grande fierté de pouvoir porter tout ça et d'avoir servi tous ces évêques. Voilà.
Merci à vous, Patrick Unas-Obiskay, et revenez nous raconter tout ce que vous faites pendant votre retraite. Ça nous intéresse, revenez nous voir.
Entendu, mais je serai là. Merci beaucoup à vous.